Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr. Avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Marc.
Carole Barjon, qui est éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Carole.
Bonjour Marc.
Stéphane Werner, rédacteur en chef délégué à Ouest France. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et Catherine Tricot, la directrice de la revue Regard. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Alors, les négociations sur le budget battent leur plein. Une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs, sont en train d'essayer de trouver un compromis sur la loi de finances 2025 avant que le texte ne revienne possiblement devant l'Assemblée nationale et fasse l'objet d'une motion de censure comme celle qui a été fatale à Michel Barnier en fin d'année. Son successeur, François Bayrou, pensait avoir trouvé la formule magique en arrachant la neutralité des socialistes jusqu'à ce qu'il prononce ces mots « un sentiment de submersion migratoire » dans une interview, sans se renier ensuite devant les députés. Furieux, les socialistes ont claqué la porte des négociations budgétaires et posent leurs conditions. On écoute à ce propos le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte.
Nous avons deux exigences. Il y a d'une part une exigence qui est d'ordre moral et républicaine. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui banalise les théories de l'extrême droite. C'est ce que nous avons dit extrêmement fermement au gouvernement cette semaine. On ne peut pas faire la courte échelle à Marine Le Pen en reprenant à son compte ses théories sur le grand remplacement ou sur la submersion migratoire. Et évidemment, le deuxième pilier d'une éventuelle non-censure, c'est la question qui est, à notre sens, aussi essentielle du quotidien des Françaises et des Français.
Jean-Marie Colombani, est-ce que c'est une erreur de François Bayrou ? Est-ce que c'est un calcul de sa part ?
Erreur ou calcul, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut regarder les conséquences politiques, puisqu'il est Premier ministre et qu'il a, ce faisant, fragilisé son propre édifice. Il l'a fragilisé de plusieurs façons. D'abord en remettant dans le circuit, à la faveur de cette interview, à la fois la question de l'immigration et la question de la mort. Et du texte qui doit en principe être remis à l'Assemblée, alors même que l'ordre du jour devait lui commander de rester focalisé sur le budget. L'enjeu, c'est le budget. C'est la France est-elle capable ou non d'avoir un budget ? Et de ce point de vue-là, l'effet de son mot submersion lâché comme cela et l'onde de choc que ça a provoqué, notamment chez les socialistes, remet les socialistes sur le devant de la scène. Alors les socialistes ont claqué la porte et ne veulent plus discuter à partir de ce mot. Ils vont trop loin à mes yeux parce qu'ils oublient une chose, c'est que dans tout son discours, François Bayrou ne fait aucune concession à Marine Le Pen, aucune. Il rappelle qu'il a fait partie du Front Républicain et il relégitime le Front Républicain. Il récuse l'axiome de base du Rassemblement National qui est l'immigration est la source de tous nos problèmes. Il dit très clairement, non, l'immigration n'est pas la source de tous nos problèmes. C'est un problème parmi d'autres, mais ça n'est pas comme cela. Il récuse aussi toute remise en cause du droit du sol, hormis l'exception de Mayotte. Donc il ne cède en rien à ce que Marine Le Pen peut professer. Donc ça devrait suffire aux socialistes pour accepter l'idée qu'il ne colle pas à l'idéologie du Rassemblement National, comme certains veulent tirer les conséquences jusque-là pour justifier éventuellement leur censure. D'une part, donc c'est une certaine façon, caricaturale de caricaturer François Bayrou. L'autre aspect des choses, c'est que pour les socialistes, s'ils votent la censure, il n'y aura pas de budget. Et s'il n'y a pas de budget, il y a non seulement le fait que les socialistes apparaîtront comme fauteurs de désordre, mais surtout qu'ils mettront un doigt dans la stratégie même de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, qui est de pousser à la crise pour obtenir une élection présidentielle anticipée, ce que les socialistes ne veulent pas. Donc je pense que leur réaction est compréhensible, parce que quand vous agitez un chiffon rouge, le mot suffit à enflammer les esprits, mais les conséquences qu'ils en tirent sont à mes yeux en tout cas abusives. Mais je ne sais pas ce qu'ils décideront.
Carole, on voit que cependant, les négociations continuent. Je parlais de cette commission mixte paritaire qui est partie pour durer peut-être un peu plus que la journée d'aujourd'hui,
c'est
jeudi.
Utile, oui.
Est-ce que c'est quand même une gaffe de la part de François Bayrou ? C'était une interview en direct. Le fait qu'il ait maintenu sa position avec toutes les nuances évoquées par Jean-Marie le lendemain devant les députés laisse à penser quand même que c'était peut-être...
Je pense, ce que Jean-Marie suggéré tout à l'heure, c'est, il n'aurait pas dû faire d'interview du tout. Voilà. Et ne pas accepter une invitation.
En direct, hein, c'est une interview en direct.
Comme ça, alors que précisément, tout le monde était prié au gouvernement de se taire ou d'en dire le moins possible avant le vote du budget et que tout le monde devait être concentré là-dessus. Donc, était-ce une bonne idée de vouloir faire une grande interview? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je suis absolument d'accord aussi avec Jean-Marie, parce que la réaction indignée des socialistes fait qu'on oublie juste de souligner qu'il, non seulement il a donné il leur a donné des gages, d'une certaine façon, sur le droit du sol, effectivement, c'est-à-dire une non-extension de la réforme du droit du sol sur tout le territoire, par exemple. Bon, ça, il a dit, pas question, on verra pour Mayotte et la Guyane. Et puis, aussi, il a rejeté l'idée d'un référendum sur l'immigration. Oui. Ça... Tout le monde semble oublier, c'est complètement passé à l'as, alors que c'était, on sait très bien que même si c'est constitutionnellement pratiquement impossible sans révision de la Constitution, mais bon, on sait que la droite, le Rassemblement national le demande, et ça, il a été extrêmement clair là-dessus. Bon, et troisième point, je pense que la réaction des socialistes, enfin, c'est quand même rigolo, parce que... Bayrou a parlé de sentiment de submersion migratoire.
Et pas là, seulement à Mayotte, hein, il a dit ailleurs dans certains territoires de France. Bah, hein, voilà.
Sentiment de submersion.
Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs ce qu'il a dit.
Et particulièrement dans certains endroits, etc. Bon. Donc, si on veut être précis, c'est une manière de prendre en compte. Ce que les sondages disent, et des sondages des instituts les plus sérieux, comme Ipsos, qui a fait une grande enquête en décembre dernier, il y a celle que vous citiez, je crois, tout à l'heure, des Labs, hier, où, effectivement, dans lesquelles entre 60 et 70% des Français pensent qu'on n'est plus chez soi, qu'il y a trop d'étrangers en France, etc., etc. Donc, le Premier ministre veut prendre en compte ce sentiment des Français, ça ne veut pas forcément... Enfin, je veux dire, on peut pas dire non plus, il n'a pas dit, il y a une submersion migratoire, donc c'est un peu différent. Et les socialistes qui s'indignent, même alors que d'un sentiment, étaient les mêmes, ou en tout cas leurs aînés, qui, sous Jospin... Quand la droite dénonçait la montée de l'insécurité, expliquait que c'était un sentiment. Donc, je veux dire, c'est un mot qui, chez les socialistes, est à contenu variable, on va dire.
Voilà.
Donc,
alors,
moi, je trouve que leur réaction, puis en plus, il y a beaucoup de... Il y a de la tactique là-dedans aussi, c'est qu'ils vont, je pense, voter... ils ne voteront pas la censure, je pense, parce que leur électorat est contre. Et ils en sont bien conscients, mais ils en profitent aussi pour faire monter les enchères et obtenir de nouvelles concessions sur le budget.
Alors juste, je vous fais réagir tout de suite, comme Carole a évoqué les sondages. Il y a un sondage qui vient de paraître, hein, Odoxa avec Backbone Consulting pour nos confrères du Figaro. Alors il y a pas mal de questions sur l'immigration, mais il y a notamment 69% qui affirment être en accord avec l'expression de François Bayrou. On leur demande, est-ce que l'immigration a atteint de telles proportions que l'on approche aujourd'hui en France une impression de submersion migratoire ? Plus de 2/3 disent oui. Alors, en même temps, 54% pensent que l'immigration est nécessaire car il y a des métiers dans lesquels on ne trouve plus de Français qui peuvent assurer ces mêmes métiers. Voilà. Donc, les derniers chiffres de sondage sont posés. Catherine, votre sentiment sur ce chiffon rouge dont parlait Jean-Marie ?
Mon sentiment, c'est que François Bayrou fait de la politique. Je ne sais pas ce qu'il pense, au fond de lui-même. Néanmoins, la question, c'est ce qu'il dit dans le contexte politique dans lequel nous nous trouvons. Or, il alimente à plusieurs titres et à plusieurs occasions dans cet entretien les idées qui sont portées par l'extrême droite. Alors, on a beaucoup parlé de la submersion. Moi, j'ai été très frappée par le long développement qu'il a fait sur la disparition du français. C'est-à-dire à propos d'alimenter les angoisses des Français. on ne parle plus français, on n'écrit plus français. Vous n'avez pas noté ça? Ça dure au moins 10 minutes.
Oui, mais
donc, non, mais d'accord. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'il alimente, il cotise aux idées qui sont portées par l'extrême droite. Vous allez me dire que c'est vrai. Moi, je
ne vais pas
Pitié, vous avez parlé, je voudrais parler.
Je rappelle simplement que François Bayrou est un ancien prof.
Oui, oui.
Et qu'il a écrit, il y a de cela plus d'une dizaine, une quinzaine d'années, un livre sur l'illettrisme où il dénonçait l'illettrisme.
D'accord. La décennie des malappris. Voilà.
D'accord.
Et
d'accord.
Donc
il le pense.
Ça ne lui vient pas du Front National.
Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que ce qu'il exprime, il est Premier ministre, il l'exprime dans un moment particulier. Deuxième élément. C'est donc pas le problème de l'insécurité culturelle, etc. Il l'a alimenté à la fois sur la question de l'immigration et sur la question de ce qui est fondateur pour les Français, fondamental, qui est la question du français. Et je trouve que c'est une question extrêmement importante. Mais quand on est Premier ministre, on ne vient pas simplement expliquer que tout fout le camp et que d'ailleurs nos petits Français ne parlent plus français. Voilà, ça c'est surtout quand on a en charge, quand on a été ministre de l'Éducation nationale et qu'on place la Première ministre. L'ancienne Première ministre numéro 2 du gouvernement, Elisabeth Borne, sur la question de l'éducation nationale. Donc pour moi, ça m'a donné une alerte. Par ailleurs, dans cet entretien, il fait un coup de chapeau à Darmanin et Retailleau, qui étaient le même soir tous les deux sur l'un Europe 1, l'autre BFM, pour expliquer qu'il fallait mettre les jeunes mineurs en comparution immédiate, c'est-à-dire sans possibilité de se défendre, qu'il fallait passer outre les règles de droit et d'isoler, de mettre à l'isolement les trafiquants de drogue, les sans-trafiquants les plus, etc. Qu'il fallait donc durcir la police. On a bien deux ministres de l'Intérieur et pas des ministres de la Justice. Plus personne ne s'occupe du droit. Il valide et il cautionne ça. Donc je m'excuse. Pourtant, je pense que François Bayrou, je ne prête pas à François Bayrou l'idée d'alimenter, de vouloir porter le Front National au pouvoir. Je pense qu'il s'imagine que c'est comme ça qu'il va combattre le Front National. Moi, je pense qu'en alimentant les idées du Front National, qu'en les reprenant, qu'en les validant, dans les mots, dans les thématiques, dans les porte-paroles, on fait le lit du Front National. C'est ma position, Carole. Je pense que la manière dont François Bayrou se positionne sur des sujets idéologiques fondamentaux, je pense qu'il alimente le Front National.
Stéphane, on ne vous a pas encore entendu. Sur ce sujet et sur l'impact sur les négociations budgétaires que vous suivez de façon
très
attentive. Alors,
vite sur le sujet, moi, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec Catherine. Je pense qu'en fait, si vous voulez, le fait les mots ont une importance. Le fait de reprendre des mots et un vocabulaire, un lexique qui appartient à l'extrême droite et au Front National, bien avant le Rassemblement National, et qui a été usé depuis plusieurs décennies, je pense que c'est une faute. Parce que c'est une manière de faire progresser des idées. Le sentiment de submersion migratoire, je suis désolé, mais on ne fait pas de la politique avec des sentiments. On fait de la politique à partir de faits. C'est un problème qui c'est une gangrène de nos sociétés. On en est coupable aussi, hein, parce que vous voyez tous les plateaux où on commente sans arrêt l'actualité, etc. C'est très bien, mais on arrête. Aujourd'hui, on parle sans. Regardez le nombre de phrases qu'on commence en disant j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, etc. Non, la réalité, c'est que vous ne pouvez juger et commenter ou agir qu'à partir de faits. Derrière cette histoire de sentiment de submersion migratoire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une extrême droite qui dit « Oui, mais en fait, on est submergé, entre guillemets, parce qu'il y a les immigrés, mais il y a aussi les enfants des immigrés et les petits-enfants des immigrés, et ça fait beaucoup. » Je suis désolé, mais la réalité dans un pays comme le nôtre, et en République française, les enfants des immigrés et les petits-enfants des immigrés sont des Français à part entière, comme vous et moi. Et donc, en fait, si vous voulez, ce sont ces idées-là qu'on est en train de faire progresser. Et de la part du Premier ministre de la France, je pense que c'est une faute. Et ce qu'attendait pour la deuxième partie de votre question, l'impact, ce qu'attendaient les socialistes après les mots de François Bayrou, c'est qu'il fasse un mandat honorable, qu'il dise oui, peut-être c'était une maladresse, je n'aurais pas dû. Ce qu'il n'a pas fait aux questions au gouvernement le lendemain, ce qu'il a encore moins fait aux questions au gouvernement au Sénat, puisqu'il n'y était même pas présent. Voilà. Et donc, il justifie sa position. L'impact, c'est que ça fait dire à un certain nombre de socialistes, à commencer, ou y compris des socialistes qui avaient milité au sein de leur propre rang pour qu'il y ait un accord, un pacte de non-censure, qu'il y ait une négociation autour du budget. Vous en avez un petit paquet aujourd'hui qui disent, en fait, c'est pas une bévue, c'est pas une boulette, c'est délibéré. Il a compris que c'était plus la peine de négocier avec nous, il ne veut plus négocier avec nous, et il est en train de se tourner vers le Rassemblement national. Et ces mêmes socialistes vous disent, on peut discuter, transiger, négocier autour des questions du budget, trouver des compromis, ça c'est de la politique. Par contre, on ne transige pas sur les valeurs, et là il y a rupture, et donc on en revient à la case départ. C'est-à-dire que là, vous avez
la case Barnier.
Exactement, on est exactement dans la même situation que Michel Barnier il y a un mois, c'est-à-dire qu'on va avoir probablement un budget, il est possible que cette commission mixte paritaire, ou il est probable que cette commission mixte paritaire se termine par un accord. On va aller la semaine prochaine en vote solennel. Ça ne pourra pas passer à l'Assemblée parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc, il y aura un 49-3. Derrière, il y aura plusieurs motions de censure qui seront déposées. Et se posera la question de la chute du gouvernement Bayrou deux jours après. La réalité, c'est qu'en gros, on va encore se demander si ce gouvernement peut tenir ou pas. Et on regardera de quel côté ? Du côté des rangs du Rassemblement national qui auront toutes les clés. C'est-à-dire que le gouvernement se remet dans la main du Rassemblement national exactement comme l'était le gouvernement Barnier il y a un mois.
Jean-Marie, vous semblez ne pas être d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je vais combattre l'axe Catherine-Stéphane en douceur.
Et moi,
parce que je ne suis pas convaincu. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'en effet, l'idéologie progresse par les mots, par l'usage des mots, bien sûr.
Non, on est d'accord.
Mais ça, il faut se tourner vers les médias, hein, parce que c'est les médias qui, à foison, nous expliquent que, etc. Je suis d'accord là-dessus. Mais cela dit, l'essentiel, encore une fois, ça n'est pas ça. L'essentiel, c'est les fins de non-recevoir que François Bayrou a opposées au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Ce sont des fins de non-recevoir qui sont infiniment plus importantes qu'un dérapage voulu ou subi sur un mot à l'Assemblée nationale. Je suis désolé.
Mais ça le choix de Retailleau et Darmanin,
c'est un gouvernement
c'est
quand qui est constitué avec Retailleau et Darmanin.
Il le valorise. Il dit c'est super de les avoir mis tous les deux. On a deux ministres de l'Intérieur, on a qu'une ministre de la Justice, et ça c'est bien.
Mais c'est pas bien.
Attendez,
non, mais c'est pas bien de ne pas avoir deux ministres de la Justice. C'est pas bien. D'avoir deux ministres de l'Intérieur, ce n'est pas bien.
Cela dit, c'est la composition du gouvernement telle qu'elle est, donc on ne va pas revenir là-dessus. Et faire reproche à un Premier ministre de faire l'éloge de ses ministres, ça n'aurait pas de sens.
Il l'a justifié politiquement.
Et ça n'est pas ça qui va nourrir le Rassemblement national.
Carole.
Donc je pense que ça, les socialistes qui sont sur cette interprétation, Stéphane, vont trop loin et mettent en péril l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire le vote d'un budget et le fait que les socialistes achèvent leur mue et achèvent leur éloignement de la France insoumise, alors que s'ils votent la censure, ils y retournent les deux pieds. Des deux pieds. Et donc ça sera mortel pour les socialistes. Et très dommageable pour le pays, parce que du coup, c'est un doigt de plus dans l'engrenage qui nous ramènera à une présidentielle anticipée. Qui dit présidentielle anticipée aujourd'hui, dit victoire de Marine Le Pen.
Donc, on parle beaucoup des socialistes, hein, Carole, je vous donne la parole, mais il y a 66 députés socialistes, hein, si je ne me trompe pas, hein, donc c'est à peine plus de 10% des députés socialistes. Si, en gros, deux tiers d'entre eux votent pour la censure, ça peut faire basculer le destin du gouvernement. Donc c'est pour ça que, même s'ils sont peu nombreux...
Un tiers, 23, ça suffit.
Voilà, 23, pardon. Oui.
Non, moi je voulais juste quand même rappeler que sur l'écriture, dire qu'aujourd'hui, les élèves souvent ne parlent plus français, c'est une réalité qui est malheureusement constatée par tous les spécialistes de l'éducation. Le premier d'ailleurs qui avait alerté sur la baisse du niveau, c'était un maoïste qui a écrit un livre incroyable en 1981 qui s'appelle « De l'école ». C'était un maoïste, donc qui n'était pas spécialement ni de droite, ni d'extrême droite. Par ailleurs, l'expression d'insécurité culturelle, Catherine, elle a été, si je ne m'abuse, inventée par Christophe Guillouis, géographe, qui était d'extrême gauche à une époque.
Quand on a été, ça ne veut pas dire qu'on est encore, Carole.
Et consacrée par Laurent Bouvet, qui est un philosophe.
Qui n'était pas d'extrême gauche non plus. Carole, c'est votre opinion. Moi, je pense que tous les gens. Les gens que vous citez, ne sont plus, n'étaient plus de gauche.
Oui, enfin.
Voilà, donc, je veux dire, quand on a été. Borne elle a été de gauche, elle n'est plus de gauche. Guy, lui, n'est plus de gauche. Oui, Bouvet n'est plus de gauche.
Mais ils ne sont pas au Rassemblement National.
J'ai pas dit que c'était au Rassemblement National. Ce que je dis, c'est que ces idées-là sont portées par le Rassemblement.
Politiquement, ne vient pas de là.
Politiquement, ces idées-là sont des idées portées par le Rassemblement National.
Par ailleurs, je pense qu'on fait de la politique en tenant compte de l'état d'esprit de l'opinion, c'est-à-dire évidemment en trouvant des solutions. Ce qui fait progresser les idées du Rassemblement National, c'est de ne pas répondre aux préoccupations qui sont exprimées par les gens. Voilà, il faut prendre en compte le ressenti, ça fait partie de la politique.
Stéphane, juste, est-ce que vous pensez que peut-être qu'il y a une stratégie derrière les mots de Bayrou. Peut-être qu'il se dit « j'ai besoin des socialistes, mais j'ai surtout besoin de la neutralité de Marine Le Pen, pour qui il a eu des mots assez doux, si j'ose dire, lors de cette même interview, affirmant que son procès n'était pas juste. » On peut peut-être penser qu'il y a un autre calcul qui nous a peut-être échappé.
C'est la question que vous posiez d'emblée, au départ. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une maladresse? Personne ne sait, en réalité. Donc, voilà. Vous avez, moi, je vous fais part de l'interprétation qui est faite par une partie des socialistes qui se disent qu'il y a un calcul. J'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Après, si c'était une stratégie, je ne sais pas si c'en est une, mais si c'était une stratégie, est-ce qu'elle peut marcher? Je ne le sais pas non plus, parce que je vous rappelle quand même que ce qui s'est passé avec Michel Barnier, c'est qu'il y avait une tentative de rapprochement de Michel Barnier, c'est-à-dire qu'il est allé loin dans les concessions et les négociations avec le RN, en se disant qu'en fait, c'était son assurance vie et que c'était un moyen pour lui d'échapper à la censure. Et au départ, on pensait que le Rassemblement National ne le censurerait pas, et finalement, il l'a censuré. Et en fait, vous ne pouvez pas... Le problème, la problématique du Rassemblement National, c'est qu'ils ont un positionnement, une stratégie qui est très maligne et qui est difficile à prévoir qui est très difficile à prévoir et à décrypter. Et donc on ne sait pas en réalité. Moi, je suis incapable de vous dire ce qu'ils vont faire la semaine prochaine.
Bien sûr.
Je suis pas sûr du tout qu'ils votent la censure, mais au dernier
personne
moment,
personne ne peut le garantir.
Exactement.
Non, bien sûr. Mais en même temps, François Bayrou connaît un petit peu les choses quand même. Et donc, il a bien vu que la stratégie de Michel Barnier de se tourner vers l'extrême droite était absurde, puisqu'il a été roulé dans la farine, comme le rappelait Stéphane. Donc, il ne va pas se mettre aujourd'hui à changer de pied et à se priver de la bénédiction ou du laisser-passer, dirons-nous, non actif, mais laisser-passer des socialistes. Il ne peut pas faire autrement. Donc il ne va pas... Je pense que de ce point de vue-là, le mot subversion est une maladresse. Ce n'est pas un changement de politique de sa part. Quand même, réaffirmer sa confiance dans le Front républicain, ça n'est pas faire le jeu du Front national.
Rapidement, Catherine, parce qu'on a un autre thème.
Ce que je voulais juste dire, c'est que ce qui est... beaucoup dit, c'est qu'il faut voter un budget et que ce que l'on demande, c'est aux socialistes de laisser passer un budget qui, bien sûr, n'est pas le budget que les socialistes voudraient. Et ce que je pense, moi, c'est que cette espèce de pression qui confine au chantage, la France a besoin d'un budget, on ne peut pas s'imaginer qu'on va faire ça en 2025, en 2026, en 2027. Moi, je crois que la solution serait que les socialistes n'ont pas négocié le point d'indice ou l'augmentation du SMIC, mais c'est OK, on laisse passer votre budget, ce n'est pas notre budget, ce n'est pas un budget de gauche, vous faites votre budget, on le laisse passer, mais accompagné d'un calendrier dans lequel il y a, de façon prévue, anticipée, une dissolution, voire une élection présidentielle. De façon à ce que tout le monde sache qu'on n'est pas, on ne commence pas à se mettre dans une situation où, année après année, les socialistes vont être mis dans la pression de voter un budget qui n'est pas le leur.
Alors, en plus de la grogne des socialistes, le gouvernement est confronté à la fronde beaucoup plus rare des grands patrons. Ils sont généralement silencieux, mais ils sont montés au créneau ces derniers jours, du MEDEF au patron Total, en passant par celui qui est sans doute le plus proche du président Macron, à savoir Bernard Arnault, le patron de LVMH. On l'écoute.
Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même... à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal.
Sa parole est assez rare, notamment sur les questions politiques. Alors, peut-être que c'est un appel du pied à Emmanuel Macron. Il n'est plus en position de lui répondre.
Si vous voulez, c'est ça qui est quand même un peu cocasse, si on voilà, je commence par le cocasse, on va dire, c'est que Bernard Arnault est un soutien historique d'Emmanuel Macron, connaît très très bien son épouse Brigitte Macron. On sait que Brigitte Macron s'habille exclusivement Vuitton, c'est le groupe de Bernard Arnault, qui finance aussi beaucoup d'associations, etc. Bon, et donc on a l'impression que Bernard Arnault se rend compte maintenant que son président préféré a provoqué une catastrophe politique en dissolvant l'Assemblée nationale en juin dernier. Et que ça provoque de l'instabilité et que du coup il y a des mesures de taxation des grandes entreprises. On a d'ailleurs murmuré, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il avait poussé un ouf de soulagement quand le gouvernement Barnier a été censuré, parce qu'il y avait effectivement une demande de contribution aux grandes entreprises. Bon, je ne sais pas si c'est vrai
ou
si c'est faux. Mais pardon.
Et aux grandes fortunes, donc oui, cases.
Donc on peut se moquer un peu. Après ça, sur le fond, moi je ne suis pas suffisamment spécialiste en finance, notamment, pour savoir si c'est vrai que Bernard Arnault, quand même, mérite peut-être pas qu'on l'attaque toujours de cette manière comme le fait la gauche, parce que malgré tout, il est un des rares qui ne se soit pas exilé quand même. Et il paye des impôts en France. Alors peut-être qu'il n'en paye pas assez. Mais en tout cas, contrairement à d'autres...
Il avait eu des envies Belgique. D'ailleurs il y a une décennie environ, ce qui avait fait un scandale. Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un coup de pression sur le gouvernement Bayrou pour dire le budget, ok, une année peut-être, mais pas plus.
Mais c'est ça, et ça a marché, puisque a priori, en fait, dans les textes qui ont été... Les premiers articles qui ont été examinés ce jour dans commission mixte paritaire... Là, les articles qui concernent la taxation des plus grandes entreprises et la taxation des plus hauts patrimoines. Ce qui était prévu, ce qui sortait de la copie sénatoriale, c'était 2 années de taxation exceptionnelle. Et ce qui a été négocié en commission mixte paritaire, c'est de revenir à 1 an. Donc en fait, le message, il a porté. Mais il a porté aussi, mais pas juste parce que c'est Bernard Arnault. Je pense que c'est un message qui est partagé par l'ensemble du patronat et des entreprises. Et derrière, si vous voulez, on peut se dire...
Qui ne sont pas concernés, puisque ça concernait les entreprises qui ont plus de 3 milliards. Donc c'est quand même des chiffres d'affaires de plus de 3 milliards.
Les grandes entreprises en général...
Oui, mais c'est pas beaucoup. Hein. Les grandes entreprises de plus de 3 milliards, ce n'est pas l'ensemble du patronat.
Pour celle-là, ça représente une augmentation du taux d'imposition de 40%, ce qui n'est pas rien. 8 milliards d'euros attendus par l'État. Moi, je pense que ces grandes entreprises, elles sont d'accord pour contribuer à l'effort national. Mais le message qui est passé là, c'est de dire attention, ce serait quand même bien qu'on ne demande pas des efforts uniquement aux entreprises ou aux grandes entreprises. Parce que dans les négociations et la façon dont l'ex-budget Barnier est détricoté et retricoté, c'est un peu ça qui se danse aussi quand même. Donc voilà. Et le message qui est passé aussi par le patronat, qui consiste à dire attention, parce qu'on n'est pas seul au monde, et derrière, il y a une concurrence internationale, et les autres ne jouent pas dans la même catégorie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas la même fiscalité. C'est une réalité aussi. Je vois qu'il rigole. Mais d'accord, mais
c'est sans limite.
C'est sans limite.
Il y a les ouvriers sri-lankais et puis Elon Musk. Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait supprimer les impôts. Donc on n'a qu'à faire pareil, puisque Trump le fait. Comment on va jouer? Il a décidé la suppression des impôts sur le revenu.
Il faut faire Jean-Marie Le Pen.
Trump le fait. Donc pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Puisque Trump le fait. Et puis je veux dire, l'histoire de concurrence internationale.
Si on redevient 2 secondes sur les réalités. Ouais. La réalité, c'est celle que dit Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a un vrai climat d'inquiétude dans les entreprises aujourd'hui en France et une vraie crainte que soit abandonnée la politique de l'offre. Mmh. Et par ailleurs, sur les impôts, la réclamation de Bernard Arnault, elle ne consiste pas à dire « je ne veux pas payer ». Elle consiste à dire « regardez d'autres groupes français champions du monde qui ne payent pas d'impôts en France ». Alors que moi, je fais 7% de mon activité en France et je paye un maximum d'impôts en France. Il se vend un peu comme modèle, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est l'inverse de la perception qu'il y a. Et je trouve très frappant que dans le même moment, pratiquement le même jour, dans la plupart des grandes villes allemandes, se sont rassemblés des chefs d'entreprise sur un mot d'ordre en disant « Attention, il faut aider à l'Allemagne à redevenir compétitive ». Eh bien, le message des entrepreneurs français est le même. « Attention, il faut aider à ce que la France redevienne compétitive ». Et ça, c'est le bénéfice de la politique de l'offre qui avait conduit à un fort recul du chômage. Et dès lors qu'on relâche l'effort, vous revoyez le chômage qui remonte en flèche. C'est ça qui est en jeu.
En quoi on a relâché l'effort ?
Et je vous renvoie à un texte fondateur de ces démarches-là, qui n'appartient pas à Bernard Arnault, qui est le texte qui a été signé il y a deux ou trois mois par l'ensemble des organisations patronales et l'ensemble des syndicats, sauf la CGT, pour
avant
dire
Noël.
Attention, le pays est au bord du précipice, il faut à la fois un budget, il faut ne pas oublier les entreprises, ne pas oublier la compétitivité, parce que notre richesse et notre taux d'emploi et notre bien-être en général en dépend. C'est ça la mentalité des chefs d'entreprise.
Est-ce que je peux en placer une?
Et on est obligé de l'entendre, ça,
Attends, d'accord, alors on verra, voilà. C'est ce que j'allais vous dire, on verra plus tard. Mais pour l'heure, pour ce qui est là, le moment maintenant, vous dites, on a relâché la politique d'offre, je ne sais pas qu'on ait taxé les entreprises. Pour l'instant, c'est un projet qui est en train de se discuter.
C'est une surtaxe.
Mais qui n'a pas été mis en
œuvre.
Non, il n'y a pas eu de relâchement de la politique de l'offre, puisque, en fait, depuis qu'Emmanuel Macron est là, on n'a jamais autant baissé les impôts. Et d'ailleurs, si aujourd'hui nous sommes en déficit, ce n'est pas parce que nous avons trop dépensé, c'est parce que nous ne ramassons plus assez d'impôts. C'est parce que, non, ce n'est pas les augmentations. Il n'y a pas d'augmentation des dépenses, il y a une baisse des recettes, c'est soi-disant la politique de l'offre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut redresser notre compétitivité. Absolument d'accord. Est-ce que redresser la politique de compétitivité, c'est forcément aller vers moins de cotisations sociales, moins d'impôts, ce qui veut dire après qu'on est en train de mettre complètement KO notre modèle de cohésion nationale et notre modèle de protection sociale et notre modèle qui fait notre vivre ensemble, ce qui fait qu'on est la France, c'est-à-dire avec un service public, avec des Français qui sont protégés. Non. Donc, il faut conserver ça. Si on ne fait pas ça, on va, de faire une crise politique majeure. Deux, vous allez décourager totalement les Français.
Il faut changer de logiciel. D'accord, il faut changer de politique,
il faut sortir
du capitalisme, etc.
Non, je n'ai pas dit ça. Je le pense, mais je ne l'ai pas dit. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas continuer d'en avoir que comme point de vue qu'il faut mettre à mal le service public, la protection sociale, pour le bien...
Il va falloir que je vous arrête.
Non, mais vous devriez réécouter le ministre de l'économie, Éric Laurent.
Éric Lombard.
Oui. Éric Laurent, c'était un dirigeant communiste. Éric Lombard, qui lui dit « La France est capable de maintenir son haut niveau de protection sociale et de relancer sa compétitivité en faisant un effort, notamment sur les dépenses. » Eh bien, relisez cela, c'est très convaincant.
On en reparlera la semaine prochaine. Il faut que je vous arrête, c'est impératif parce que c'est l'heure de la politique sur les réseaux.
N'est pas né sous le
Ça aussi animé, ça va être compliqué. Hein.
Voilà, bonjour Véronique Ressoux, directrice de Backbone Consulting, une discussion animée.
Ouais.
Alors évidemment, on vient d'en parler, la perception par l'opinion de cette formule. La submersion migratoire,
de la bouche de François Bayrou. Moi, je vais vous dire ce que les internautes et les Français qui s'expriment sur les réseaux sociaux ont dit. Mais pour eux, c'est pas forcément une priorité. Il suffit de regarder les volumes, 67 000 mentions, c'est pas énorme. Et ce qu'ils ont retenu, en gros, dans ces messages, c'est le mot sentiment. Et en fait, c'est surtout ça qu'ils ont commenté. La subtilité de sentiment, de perception, avec quelques différences pour eux par rapport aux faits, et rappelant qu'il y a plein d'éléments aujourd'hui qui sonnent sentiment et perception, plus que données factuelles. Ensuite, j'ai regardé quels étaient les émojis, parce que je ne peux pas faire autrement maintenant. Et dans les émojis, vous voyez, il y a un petit monsieur qui est dubitatif. Pourquoi est-il si dubitatif? Il se demande pourquoi M. Bayrou a parlé de ça. Les internautes disant, globalement, on a quand même d'autres chats à fouetter que ce sujet-là, qui certes est important, mais qui n'est pas une priorité. Il y a aussi le Parlement, en disant, c'est un sujet pour les députés, sans doute, mais pas forcément pour les Français. Et les petits bonhommes énervés et la petite crotte qui est dans le fond, c'est parce qu'en gros, ils expliquent, c'est pas... Là encore, ils sont mécontents parce que ce n'est pas leur priorité. Alors après, je vais vous parler des sondages. Vous avez parlé du sondage que nous avons sorti aujourd'hui avec Odoxa pour le Figaro, avec 69% des gens qui disent que c'est bien Hier, il y a eu un sondage ELAB qui posait la même chose, et celui-ci disait 74%. Donc certes, ça ne les passionne pas, mais plus on en parle, plus ils finissent par se poser des questions. 64% trouvent en revanche que M. Bayrou a eu raison d'utiliser cette expression, et 71% sont d'accord pour dire qu'il y a un apport positif de l'immigration, et quand, rappelez-vous, dans le sondage que je vous ai montré tout à l'heure, 54% des Français disent que l'immigration, c'est nécessaire et utile. Donc on voit bien que ça ne passionne pas les Français, ça n'est pas une priorité pour eux, mais pour autant, à force d'entendre les uns et les autres commenter, ils finissent par évoluer et ça finit par être un sujet plus important que ça ne l'est pour eux en réalité.
Évoluer contradictoirement.
Oui, très contradictoirement.
La première partie dément ou l'inverse.
Oui, mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est pas le sondage.
C'est pas la même chose, mais...
L'autre, c'est les réseaux sociaux. Oui. Où ouais. Peut-être bien plus sûr. De gens de gauche, je ne sais pas, mais
alors, plus actifs.
Évidemment, alors parmi les sujets qui semblent préoccuper les Français, ce n'est pas nouveau évidemment, c'est l'emploi. Et donc on a entendu Bernard Arnault s'exprimer. Voilà. Quel genre de réaction ça a suscité ?
Bien, l'emploi est vraiment un sujet important, il l'est de plus en plus. C'est,
c'est un sujet qui monte,
un sujet de préoccupation, il y a plein d'exemples. Et donc évidemment, ce sujet, on voit qu'il a été commenté, voilà, en disant que c'est un patron qui s'exprime peu et le fait qu'il s'exprime tout d'un coup devrait faire réfléchir. Et globalement, on s'est aperçu que des chiffres ont été beaucoup sortis. Pour vous donner une idée, quand on regarde hors militants, j'ai sorti volontairement les militants de l'observation, on a 60% de messages qui étaient plutôt positifs et 40% plutôt négatifs. Et quand je dis positif, pas positif sur ce que disait Monsieur Arnault, qui n'est pas forcément soutenu et aimé, mais c'est plus un sujet autour des chiffres qui sont partagés et qui inquiètent les Français et qui sont en lien avec le sujet de l'emploi. Et plus les chiffres étaient partagés, plus on pouvait lire au fur et à mesure de la journée une réelle inquiétude, donc l'impact fiscal de LVMH qui représente 1,1% du PIB français, les 214 000 emplois directs et indirects qu'il représente, tout ça n'a fait que inquiéter. Un autre exemple de message qui a été beaucoup partagé, voilà, juste une petite réflexion comme ça, si LVMH quitte la France, cela signifie des impôts et des TVA en moins, un PIB en moins, des emplois en moins, sachant que les chiffres étaient assez variable, mais elle est tous dans une réalité d'un nombre important. Et puis, le ton désabusé qu'a employé M. Arnault pour s'exprimer a été aussi beaucoup commenté en disant, bah, en fait, voilà, généralement, il est plutôt discret. Ça commence, s'il commence à se plaindre publiquement, c'est un cap qui a été franchi. Et aussi, le fait que son ton était désabusé, les uns les autres disaient, bah, finalement, c'est comme s'il était résigné et qu'il allait le faire. Et ce discours, juste ce discours, j'étais à regarder si nous ne sommes les seuls à en avoir autant parlé. Eh bien non, dans le monde entier, on en a parlé. Alors c'est bien sûr, surtout en France, mais on en a parlé un peu partout, dont aux États-Unis. C'est une réalité qui est, voilà, ce discours, il a résonné. Alors c'est pas forcément très positif en soi pour la France, dans le raisonnement. Et aux États-Unis, c'était surtout pour lui dire bienvenue. Alors, je vous ai pris quelques exemples plutôt en français qui disaient « Je ne comprends même pas pourquoi il est encore en France, pourquoi s'obstiner ?» On avait aussi, quand on lit ce type de message, on a une confirmation qu'il ne faut pas investir en France, laisser LVMH partir. Voilà, et tout le monde sera content et nous, on pourra en profiter dans la zone dollar. Donc en gros, les messages étaient plus en anglais et plus « welcome ». Mais je vous ai pris quelques exemples et c'était un sujet de se dire que, ben oui, même à l'étranger, on en parle et en particulier aux États-Unis.
Oui, où il a évidemment une très bonne relation avec Donald Trump.
Excellent.
On l'a vu lors de son inauguration à Washington.
Alors après, il y avait aussi des messages sur lui, mais j'ai vraiment isolé ceux sur le discours, parce qu'après, il y avait des messages sur succession, des photos de lui et son fils. Voilà. Mais globalement, sur le discours qu'il a fait en France.
Alors, vous avez une autre information qui nous vient des États-Unis. Google fait désormais de la géopolitique.
Mais oui, vous connaissez Google Maps. Vous en servez tous.
Jusque-là, ça va.
C'est ce qui nous permet de nous repérer dans l'espace et de savoir comment on va quelque part. Donc Google Maps, si tout d'un coup vous aviez envie d'aller dans le golfe du Mexique, voilà, ça vous donnerait ça. On vous dirait, le golfe du Mexique, c'est là. Et puis on vous donnerait peut-être pas un moyen pour y aller à pied, mais en tout cas, on vous expliquerait quel est le chemin et comment on y va. Et figurez-vous, Comment ?
Le Golfe d'Amérique.
Eh bien voilà, maintenant ça va être le Golfe d'Amérique. Oui. Alors il y a eu beaucoup de gens qui se sont émus en disant mais pourquoi changer ? Donc Google a donné une explication tout à fait officielle et une explication apolitique en disant ils appliquent comme toujours les règles qui sont les sources gouvernementales officielles. Et donc comme M. Trump veut changer ce nom pour que le Golfe du Mexique devienne le Golfe d'Amérique en honneur, pour honorer les États-Unis et leur action incroyable, voilà, donc globalement ça va changer, mais il y a une petite subtilité parce qu'il y a eu quand même beaucoup de plaintes, c'est que pour le reste du monde les deux noms apparaîtront sur Google Maps en disant voilà, on vous donnera les deux noms pour se repérer, en disant aux États-Unis vous n'aurez que le Golfe d'Amérique, mais quand vous êtes ailleurs vous pourrez avoir les deux noms. Et globalement voilà, c'est la démonstration de l'évolution petit à petit de la géopolitique.
Il ne restera plus qu'à rebaptiser le Mount Rushmore. Vous savez, c'est cette falaise où il y a sculpté dans la roche les visages d'un certain nombre. Et bientôt, ce sera le Mount Trump. Simplement, il va faire sculpter son visage dans la roche de la même façon.
Mais déjà, il a remis le nom du Mont McKinley.
Il n'y a plus aucune limite. Oui, en plus, oui.
L'a remis.
Une simple proclamation de Trump fait changer Google.
Exactement.
Eh bien voilà, nous y sommes. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir regardé. Restez sur France 24 pour plus d'informations.